Merci beaucoup, Monsieur Brown. C'est toujours magnifique d'entendre des musiques spéciales, de voir les talents que Dieu permet d'avoir dans la famille. Et donc, frères et sœurs, nous sommes au dernier jour de la fête des tabernacles. Et au cours de la fête, nous avons visité deux endroits assez intéressants. Le premier, c'était qu'on a visité hier, qui était le Diefen Bunker, un abri nucléaire qui était bâti dans les années 60, maintenu opérationnel jusque dans les années 90. Vous imaginez la dépense d'argent qu'ils ont mis là-dedans. 100 000 pieds carrés de béton fortifié, enterré dans une colline, et qui pouvait devenir totalement hermétique dans une fraction de seconde, et de faire subsister 535 personnes pour un mois. Nous avons aussi visité le Parlement cette semaine. Et encore une fois, un édifice, cette fois-là, magnifique, travaillé avec minutie, avec patience, préservé, restauré, rebâti après l'incendie, maintenu. Et nous avons quelque chose qui est absolument extraordinaire que nous avons vu, malgré la beauté de ces choses-là, malgré l'ingénierie de ces choses-là. Il y a quelque chose de totalement extraordinaire qui s'en vient, que nous sommes ici pour célébrer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué le Parlement, la minutie qui était dans les icônes, dans tous les petits détails, ceux et celles qui ont été dans la bibliothèque. Comment que la bibliothèque était belle, comment c'était beau. Le bois, les détails, l'armurerie, tous les différents détails de bois qui ont été faits, qui ont été mesurés. Et ça nous impressionne, c'est impressionnant. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus impressionnant qui s'en vient. Allez tourner à Apocalypse 21. Parce qu'aujourd'hui, je vais me servir de ces deux visites-là pour comparer des choses avec lesquelles nous sommes ici pour rêver. Donc, Apocalypse 21, et en commençant au verset 9. Donc, comme M. Lardé disait, lui aussi a besoin d'une Bible. La mienne aussi, j'ai besoin d'une Bible. Elle commence à tomber en morceaux. Apocalypse 21, donc, au verset 9. Regardez la beauté de ce que Jean commence à décrire ici, la nouvelle Jérusalem qui va descendre. Et c'est la journée de demain qui est préfigurée ici, c'est vers là que nous en allons. Verset 9 est marqué, « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux, vint, et m'adressa la parole en disant, « Viens, et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit dans une haute et grande montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et regardez la description que Jean fait. Et Jean est obligé d'utiliser des mots qu'il connaît. Des mots qu'il a. Il est obligé d'utiliser, il ne connaît pas d'autre chose. Mais regardez la description qu'il donne ici. Son éclat était comme celle d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux 12 portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Les murailles de la ville avaient 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait une mesure d'un roseau d'or, afin de me faire mesurer la porte, sa ville, les murailles. La ville avait une forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Et il mesura la ville avec le roseau, et il trouva 12 000 stades, 2 200 kilomètres, d'ici à la Floride. Et c'est un cube. Elle va être aussi haute qu'elle est large et longue. Cette ville va avoir 2 200 kilomètres de haut. On va-t-il être capable de la voir de loin? Lorsqu'on parle que le mont Everest présentement à 8 000 mètres, 8 kilomètres, on parle d'une ville qui en a 2 200. Prenez juste le temps de vous imaginer quelle longueur, quelle hauteur que ça va être. Mais continuons, descendons un petit peu plus bas, au verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx. Vous pouvez descendre jusqu'à 12. Tous des pierres précieuses extrêmement extraordinaires, extrêmement rares aujourd'hui. Et encore une fois, ce sont des choses que Jean utilise comme description. Et la meilleure description ici que l'on voit, c'est que ce sont des choses qui ne sont pas d'ici. C'est la description qu'on voit au verset 21, la dernière partie du verset 21, ou le verset 21 au complet. Les 12 portes étaient 12 perles. Si vous savez d'où viennent les perles aujourd'hui, et vous regardez la grosseur des dimensions de la porte qu'on parle, j'ai peur de voir l'huître qui est en train de la concocter. Ça va être une méchante bébite. Non, ici, on parle de choses qui n'existent pas, des choses que l'on ne sait pas et que Jean utilise parce qu'il n'y a pas d'autre description. Et ensuite de ça, il dit « La place de la ville était d'or pur, comme d'un verre transparent. » De l'or, ce n'est pas transparent. Peut-être si la couche est extrêmement mince, on est capable peut-être de voir au travers, mais de l'or, ce n'est pas transparent. Donc, Jean utilise des mots ici qui sont les siens, mais il décrit quelque chose qui ne sait pas c'est quoi. Et Dieu lui a donné ces mots-là pour décrire le temple, décrire la majesté de cette ville-là qui va revenir. Et qu'on est ici pour penser, pour réfléchir, pour rêver. Parce que ce sont des choses qui s'en viennent. Et donc, lorsqu'on est ébloui par le Parlement, mettons, ou par l'ingéniosité du Diefenbunker, c'est rien à comparer à ce qui s'en vient. C'est absolument rien à comparer à ce qui s'en vient. Mais voyez-vous, les deux édifices que l'on a vus cette semaine sont deux opposés. Un qui est très beau, puis l'autre qui est très rudimentaire. Mais ils apportent à la même conclusion. Ils apportent à la conclusion que l'humanité met son espoir en l'humanité. Et c'est le titre du sermon aujourd'hui. L'humanité met son espoir en l'humanité. Et nous allons regarder aujourd'hui trois aspects que ces bâtiments mettent en lumière pour nous qui célébrons durant les jours de cette fête des tabernacles, l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Et on va faire la comparaison entre ces deux choses-là. Pour voir où devrait être notre espoir, où l'on devrait mettre l'espoir, où devrait être l'espoir de l'humanité. Et les trois points que nous allons couvrir, ce seront les deux servent à abriter un gouvernement humain. Que ce soit le Parlement ou que ce soit le Diefenbunker, il servait à abriter le gouvernement canadien, le gouvernement humain du Canada. Et nous allons exploiter ce point-là dans quelques instants. Ensuite, nous allons regarder les niveaux de protection que l'être humain doit mettre en place pour survivre. Et le troisième point que nous allons regarder, c'est l'espoir en l'humanité, une leçon à apprendre. Donc, commençons par le premier point. Donc, point numéro un, j'avais dit, c'était les deux servent à abriter un gouvernement humain. Les deux bâtiments servent à abriter le gouvernement pour que le gouvernement continue à fonctionner. Ce qui était frappant, c'est que dans l'un, c'était beau, magnifique. Des colonnes de pierre, des colonnes décorées, des tableaux, une bibliothèque absolument extraordinaire. Et dans l'autre, c'était la simplicité rudimentaire. Mais peu importe le niveau de complexité des édifices, des structures, de la minutie, l'ingénierie, ces gouvernements-là vont être remplacés dans très peu de temps. Ces édifices-là vont être remplacés par un autre gouvernement. Tous ces ministères, tous ces différents premiers ministres, toutes ces personnes qui essaient de se faire élire à tous les quatre ans ici au Canada vont être remplacés. Reportez-vous à Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2, verset 44. Daniel, chapitre 2, et au verset 44. Vous connaissez la prophétie? Daniel met ici en explication un rêve que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait eu. Et au verset 44, il est écrit ça. Il est écrit ceci. Il dit, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela, et le songe est véritable, et son explication est certaine. Avez-vous déjà remarqué qu'au verset 45, qu'il est indiqué là que c'est une pierre qui s'est détachée d'une montagne, que Christ va sortir du gouvernement de Dieu, que Dieu a déjà un royaume et que Christ va sortir du royaume pour venir établir le sien jusqu'à temps que Dieu le Père revienne et complète le dessein. Et c'est absolument fascinant parce qu'on voit que le Christ est sous autorité. On voit que Christ fonctionne au sein d'un gouvernement qui existe déjà. Et c'est un gouvernement qui ne sera jamais détruit. Nous n'aurons pas besoin d'abri nucléaire. Nous n'aurons pas besoin de mesures de sécurité. Nous n'aurons pas besoin d'aucune des choses que l'on a vues au cours des derniers jours. Imaginez toutes les lois que l'on a aujourd'hui vont disparaître. Les prisons vont disparaître. Plus de police, plus d'armée, plus besoin de protéger les frontières. Un monde va être totalement changé. On n'a aucune idée de ce que ça représente. On peut juste l'imaginer, comme disait M. Brown. Ce sont des choses absolument fantastiques qui sont juste à l'horizon. Reportez-vous à Isaïe chapitre 9. On a été voir Isaïe plusieurs fois durant cette semaine. Isaïe chapitre 9 et au verset 5. Isaïe chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Et c'est exactement ce que cette fête représente. Nous avons vu des sièges du gouvernement, mais un nouveau gouvernement va arriver, qui va apporter une toute nouvelle autre voie de vie. L'humanité va finalement découvrir que c'est Dieu qui décide. Et même pour nous autres, aujourd'hui, c'est des choses qui sont difficiles à accepter des fois. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide comment on doit l'adorer, pas nous. Ce n'est pas à nous à choisir comment on fait les choses. C'est Dieu qui décide comment on fait les choses. C'est Dieu qui décide comment on va faire, comment on va organiser, qu'est-ce qu'on va faire, quand on va le faire. C'est lui qui décide qui fait quoi, qui est en charge de qui est en charge de quoi. Il y a une structure qui est là. Et c'est tellement important qu'on comprenne cette leçon-là, au sein de l'Église, qu'on travaille ensemble, qu'on devienne un. Il y a des positions qui sont mises. Si vous allez dans 1 Corinthiens 12, reportez-vous à 1 Corinthiens chapitre 12. Et c'est des leçons que l'on doit apprendre. Et c'est pour ça que je trouve que le déménagement dans la tente demain va être un exemple extraordinaire. Parce qu'il va falloir qu'on fasse les choses autrement demain. Il va y avoir des instructions qui vont être données. Et il va falloir qu'on écoute les instructions et qu'on fasse les instructions. Et ça, des fois, ça ne nous tente pas. Moi, je veux m'asseoir là. Oui, mais tu ne peux pas aller là. Je veux que tu ailles là. Ce sont des choses qu'il faut faire. 1 Corinthiens 12. Commencez au verset 12. Car comme le corps est un en un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous sommes son corps, nous sommes son temple. Il est en train de bâtir le temple qu'il va avoir. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si le pied disait, « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si on essaie tous de faire la même chose, il va manquer quelqu'un quelque part d'autre. On a tous un rôle à jouer. On a tous quelque chose à faire. Et continuons à lire au verset 14. Il est marqué là, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » C'est Christ qui décide où on va aller. Lorsqu'on sera dans le royaume, si Christ me dit « Tu vas garder la porte au cours des prochains, pour le prochain millénaire », est-ce que j'ai besoin de dire « Non, ça ne me tente pas de garder la porte, moi, je peux-tu prendre d'autres choses? » Dieu ne permettra pas de faire ça. Il va falloir qu'on ait appris la leçon. C'est Dieu qui place les membres, pas nous. C'est Dieu qui donne, c'est pas nous. Combien d'exemples est-ce qu'on a dans la Bible où est-ce qu'on voit des rois et Dieu dit à ces rois-là, « Vous avez été placés en autorité parce que je l'ai voulu. » Allons voir un de ces exemples-là. Exode, chapitre 9. Exode, chapitre 9. Exode, chapitre 9. Donc, nous sommes au début d'Exode. Vous savez ce qui se passe. Ce sont les 10 plaies qui descendent sur l'Égypte et sur le roi, sur le Pharaon. Mais regardez ce qui est écrit ici au verset 13 à 16. Qu'est-ce que Dieu prend la peine d'aller expliquer à Pharaon? Au verset 13, c'est marqué, « L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon, et tu lui diras, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu des Hébreux, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, « car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, « contre tes serviteurs et contre ton peuple, « afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » Au verset 15, regardez l'avertissement qu'il donne à Pharaon. Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre, tu ne serais plus là. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom sur toute la terre. Je t'ai laissé en place parce que j'ai voulu que tu sois en place. Et vous pouvez aller dans plusieurs autres exemples dans la Bible, il dit toujours la même chose. C'est moi qui ai permis que tu sois là. Il a dit la même chose à Nebuchadnezzar. Ce n'est pas par ta puissance que tu as monté et que tu es rendu grand, tu es rendu le plus grand roi du monde. C'est parce que je l'ai voulu, parce que j'ai un plan. Il y a 4 gouvernements qui vont passer sur la terre, tu es le premier, mais les 3 autres vont venir après toi. Mais c'est moi qui décide. Pas Marc Arsenault, Dieu. C'est Christ qui a un plan, c'est lui qui fait les choses. Et c'est lui qui décide quand les choses vont arriver. Donc nous sommes le gouvernement qui va remplacer tous ces gouvernements-là. Et j'espère qu'on prend le temps de réaliser des fois que c'est exactement pour ça qu'on est ici. Que c'est exactement pour ça que vous êtes assis sur vos chaises pour apprendre que nous sommes le gouvernement futur. On doit apprendre à vivre selon ces lois-là. On doit apprendre à connaître ces lois-là parce qu'on va les appliquer dans quelques années. On est le temple qui est en train d'être façonné. Comme j'ai dit dans mon premier sermon, nous sommes présentement dans la carrière en train d'être piochés, en train d'être martelés, en train d'être coupés au ciseau pour que l'on devienne pour que tout s'emboîte, tout s'embrique, tout devienne fonctionnel quand Christ va décider de revenir. Parce que ça va être des décisions qui ne sont pas les nôtres, mais la sienne et celle de Dieu le Père. Et ce sont des choses absolument extraordinaires. Mais nous sommes à l'entraînement pour remplacer les gouvernements du monde. Et juste ça, ça devrait nous donner la chair de poule. Point numéro 2. Tous les niveaux de protection. Les niveaux de protection. Un sert à abriter le gouvernement lorsqu'il est en fonction, que tout va bien. Mais avez-vous remarqué le niveau de sécurité que nous avons dû franchir pour se rendre à l'intérieur du Parlement? Combien de temps on a passé au guérite de sécurité? Combien de temps ça nous a pris pour rentrer à l'intérieur? C'est incroyable. Ils fouillent tout. On est passé dans les scanners. Tous nos couteaux de poche ont été confisqués. Pauvre petit. Mais le niveau de sécurité qu'ils ont mis en place, on ne peut même pas approcher en voiture. La Gendarmerie royale du Canada est sur place. Avez-vous le nombre de voitures de police qu'il y avait là? Ils font des rotations, ils tournent. Tout ça pour protéger un gouvernement. À l'abri nucléaire, l'épaisseur des portes, le nombre de postes de sécurité que vous avez dû franchir si vous étiez pour être sur la liste des 535 qui étaient pour être là. 3 postes de sécurité pour être sûr que vous soyez sur la liste. Des portes hermétiques qui ferment, que personne n'est capable d'ouvrir. Les systèmes de filtration, les systèmes d'aération, la nourriture, l'eau, les soldats, l'armement. Tous ces systèmes pour protéger un gouvernement humain. Tous ces systèmes-là pour protéger un gouvernement. Tous les efforts qu'ils mettent en place parce qu'ils mettent leur confiance où? Dans l'homme. Dans le gouvernement humain. Si seulement ils savaient qu'il ne va y avoir absolument rien qui va pouvoir les protéger quand Dieu va décider que ce soit le temps. Rien. Quand ça va être le temps, il n'y a absolument rien qui va les protéger contre la colère de Dieu. Quand ça va être le temps qu'ils apprennent leur leçon, absolument rien va empêcher Dieu de leur montrer la leçon. Mais encore une fois, combien de fois on voit des exemples d'hommes dans la Bible qui n'ont pas confiance à Dieu? Reportez-vous à Genèse. Allons voir le premier exemple, Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, la tour de Babel. On est à peu près 100 ans, 150 ans après le déluge, donc ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et nous sommes présentement ici à... Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et verset 2, il est écrit, « Comme il était parti de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. » Et ils y habitèrent. Et ils se dirent les uns les autres, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et les briques leur servirent de pierre, et leur bitume leur servit de ciment. Et ils dirent alors encore, « Allons et bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Faisons-nous des bunkers pour préserver le gouvernement. Faisons-nous des lieux secrets, des lieux cachés pour qu'on puisse amener nos gouvernements, pour qu'on puisse continuer notre voie de vivre. Pensons-nous une ville qui ne sera jamais détruite. Et regardez ce qui est écrit au verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, ils forment un seul peuple et ils ont tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. L'être humain est une capacité absolument extraordinaire. Et regardez présentement ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, c'est l'anglais. La plupart des gens parlent l'anglais. Et regardez les avancées technologiques, les avancées techniques, les avancées dans les bâtiments, les avancées, il n'y a pas d'arrêt pour l'être humain. On s'en va dans le même sens. On s'en va dans la même direction. Mais Dieu ici dit, allons et descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de toute la face, loin de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Dieu a mis un point d'arrêt, parce que les hommes mettaient leur confiance en l'homme. Et Dieu a dit, non, ça ne marche pas. Vous allez apprendre la leçon. La leçon, c'est moi qui la donne. Vous devez avoir confiance en moi. Allons un peu plus loin, 1 Samuel 8. 1 Samuel, chapitre 8. Regardons un autre exemple, où est-ce que les hommes se sont fiés aux hommes, ont rejeté Dieu, n'ont pas voulu avoir Dieu dans leur vie. 1 Samuel, chapitre 8. Vous connaissez encore probablement l'histoire, mais c'est bon de la réviser de temps en temps. Donc ici, 1 Samuel 8, 1 Samuel chapitre 8, on voit que ça va être Israël qui va rejeter Dieu. Ils vont vouloir faire confiance en un roi. Lisons ce qui est écrit 1 Samuel 8, verset 5. 1 Samuel 8, verset 5. Alors ils lui dirent, « Voici Samuel, tu es vieux. » Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Pourquoi ils avaient besoin d'être jugés par des hommes? Ils avaient un juge parfait s'ils faisaient confiance à Dieu. Et continuons. Comme il y a chez les autres nations, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Ils veulent aller dans ce chemin-là? Laisse-les aller. Ils ne veulent pas écouter? Laisse-les aller. Je vais m'en occuper. C'est juste une question de temps. Mais laisse-les aller. Et il continue, il dit, « Écoute tout ce que le peuple te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Le peuple d'Israël a voulu faire confiance à des rois humains. Et Israël rejeta donc Dieu. Il voulait être comme les autres nations autour. Il voulait faire comme les autres nations qu'il y a sous le soleil. Mais y a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil? Même aujourd'hui, on fait exactement la même chose. On se donne des gouvernements humains, on se donne des discours de politiciens qui nous promettent la lune. Et on croit, ou le monde croit, en l'être humain. Les politiciens qui disent, on va faire ceci, on va faire ça. On va réussir à apporter la paix. On va l'avoir. Nous allons être capables d'établir ça. Cette attitude de croire en l'humanité va même apporter les nations à combattre Christ. Ils vont même s'assembler ensemble parce qu'ils vont penser que Christ est va faire une invasion, est un imposteur. Ils vont se combattre le plus fort qu'ils peuvent. Ils vont amener tous leurs armements ensemble, toutes leurs armées ensemble. Parce que le meilleur moyen de combattre ensemble, c'est d'avoir un ennemi commun. Et Christ qui va descendre va être l'ennemi commun. Ils ne voudront pas changer. Ils vont défendre leur gouvernement, leur voie de vie, même jusqu'à toute fin. Je n'avais pas dans mes notes, mais je vais donner à M. Pierre le temps de me rendre. Mais allez à Apocalypse 16. Apocalypse 16, et regardez ce qui se passe au verset 10, Apocalypse 16, verset 10. Regardez l'attitude que l'on parle présentement. Il dit, le cinquième versa sa coupe. On est sur les dernières coupes, les dernières plaies. Et c'est marqué, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le roi, le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ça ne fait pas encore assez mal. Ils ne veulent pas changer. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est exactement ce que Dieu nous permet de voir, ce que Dieu nous permet de comprendre aujourd'hui. Que nous devons changer. Mais le monde aujourd'hui est bâti exactement sur le même principe. Ils ne veulent pas recevoir un nouveau gouvernement. Ils ne veulent pas avoir quelqu'un qui dise « tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Ils veulent faire les choses à leur manière. Et ils veulent protéger leur système de vie avec toutes les méthodes possibles. Et c'est pourquoi qu'on a tous les niveaux de sécurité que l'on a vus. Mais nous qui sommes ici, en qui mettons-nous notre confiance? En qui mettons-nous notre confiance? Dans les gouvernements de ce monde, dans des abris antinucléaires, dans des endroits reculés, cachés à l'abri de tout le monde? Il y a des émissions de télévision qui parlent de ces choses-là présentement, des gens qui essayent de se planifier pour être capables de survivre à n'importe quoi, qui bâtissent des abris antinucléaires dans des terrains privés, cachés, avec des systèmes de sécurité, avec des fusils, avec des mitrailleuses, des grenades, toutes sortes de patentes, pour essayer de se prévenir. Mais nous, où allons-nous nous cacher? Où sera notre protection? Et la Bible est très claire là-dessus. Psaume 127. Psaume 127. Psaume 127 et le verset 1. Regardez ce qui est écrit ici. Psaume 127, verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Tous ces soldats qui sont autour, qui veillent, qui gardent le Parlement. Tous ces soldats et autres choses qui gardent les autres abris nucléaires que nous ne connaissons pas présentement parce qu'ils sont gardés secrets. Parce que si celui-là a été décommissionné dans les années 90, je suis certain que le gouvernement canadien a d'autres places où ils vont aller se cacher. Sûr. Quand les choses vont commencer à aller mal, c'est certain qu'ils ont d'autres abris antinucléaires quelque part. Mais nous, où allons-nous mettre notre confiance? Et aussi aller à psaume 118, quelques psaumes avant, psaume 118. Et regardez ce qui est marqué au verset 6. Psaume 118, verset 6. « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Et maintenant, on est au verset 8 de psaume 118. « Mieux vaut chercher refuge où? » Dans les abris nucléaires? Non. C'est marqué « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Et verset 9, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » D'autres versions ont le mot « prince », les dirigeants de ce monde. C'est Dieu qui va nous protéger. Et c'est Dieu, dans Dieu, que nous devons mettre notre confiance. Nous devons nous confier à lui. Nous devons faire partie de sa famille. Nous devons faire partie des gens qu'il va protéger. Nous devons faire notre part. Parce que regardez ce qui est écrit au verset 7 ici. J'ai sauté par-dessus. C'est marqué au verset 7. « L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » On va pouvoir se réjouir à la vue de nos ennemis. Les êtres humains aujourd'hui ne peuvent pas faire ça. Lorsqu'on voit une armée arriver contre une autre, ils ne se réjouissent pas du tout. Ils savent que ça peut coûter leur vie. La guerre en Irak, en Syrie, des gens meurent tous les jours parce que leur confiance n'est pas au bon endroit, parce qu'ils ne comprennent pas les choses. Vous savez, il est écrit dans Romains 8, 31, on ne se rapportera pas, mais « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Qui peut être contre nous si Dieu est là? Comme il a été dit dans le film « Behind the Work », si le père du lionceau est en arrière, qui peut avoir peur? Le lionceau n'a pas besoin d'avoir peur de rien. personne ne va approcher du lion. Et c'est ça que Dieu est. Dieu est le lion. Nous sommes le petit. Le petit chat en avant. Là. On n'a aucune défense, mais le lion est en arrière de nous autres. 600, 785 livres de muscles. Et c'est ça que Dieu va être pour nous si on se confie dans Dieu, si on fait ce qu'on doit faire. Regardez l'exemple de David, toutes les expériences qu'il a vécues. Où a-t-il mis sa confiance? Il a mis sa confiance en Dieu. Dieu était son pilier, était sa forteresse. Rien ne pouvait ébranler David. Reportez-vous à psaume 18. Regardez ce que David dit. Psaume 18. Et on pourrait prendre plusieurs autres psaumes à travers tout le livre des psaumes. Mais dans psaume 18, regardez ce qui est écrit au verset 2. Psaume 18 et le verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon rocher, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Et dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et j'ai crié à Dieu. Et de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et Dieu a intervenu. La puissance de cet être-là. On n'a pas d'idée, des fois. Des fois, on est malade, des fois, on ne se sent pas bien, des fois, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais on essaie de régler les problèmes par nous-mêmes. Mais Dieu dit le contraire. Fais-moi confiance. Viens me voir. Des fois, quand mes enfants étaient plus jeunes, on achetait des Legos. Vous connaissez les Legos? Les petits blocs? Et ils avaient un plan qu'ils essayaient de suivre. Et à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Et là, je les voyais travailler. Et je les voyais essayer de faire les choses pour. Puis à un moment donné, ça ne marchait pas. Mais je ne disais rien. Je restais assis, je les regardais juste faire. Mais à un moment donné, ça ne marchait plus. Puis là, ils s'élevaient, puis ils venaient voir, puis ils disaient, « Papa, ça ne marche pas. Félicitations, bravo, t'es venu me voir. Viens, on va aller trouver ce que c'est. » On allait s'asseoir, puis là, je reculais, je retournais les étapes. Puis là, je travaillais avec lui, puis, « Oh, j'ai pas fait ça. » C'est ça, t'as pas fait ça. Et Dieu travaille de la même manière avec nous autres. On avance, on fait nos affaires, puis à un moment donné, ça bloque, ça jamme, il y a quelque chose qui passe pas. Puis on essaye, par nous autres mêmes, de trouver la solution. Puis là, à un moment donné, bien, quand ça va faire mal assez longtemps, bien, on se revire, puis on dit, « Papa, peux-tu m'aider? » C'est fait. La solution se trouve dans une minute d'après. Mais c'est de mettre la patience de Dieu au bon endroit. Et c'est ça que David a appris à faire au cours de toute son existence. C'est exactement ce que David faisait. Si vous reportez un petit peu plus loin dans psaume 18, allez descendez au verset 28. Descendez au verset 28 de psaume 18. Regardez ce qui est écrit. Il dit, « Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses le regard des hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Et toi, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Il n'y a absolument rien d'impossible à Dieu. Prenez le temps d'aller relire l'exemple de Pierre qui a marché sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. C'est impossible de marcher sur l'eau. Vous avez beau essayer tant que vous voulez, donnez-vous la plus grosse élan que vous voulez avoir à partir du haut de la plage puis descendre jusque dans l'océan, vous allez couler. Vous allez suivre le fond. Vous n'allez pas suivre l'eau.
Mais Pierre a marché sur l'eau parce qu'il avait les yeux fixés sur Christ. Et tant aussi longtemps qu'il avait les yeux fixés sur Christ, ça a fonctionné. C'est quand il a décidé de regarder à côté qu'il a commencé à couler. C'est la même leçon ici que David nous dit. Et au verset 32, « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. » Des psaumes absolument extraordinaires. Maintenant, regardons un autre exemple. Deux rois. Deux rois, chapitre 18. Deux rois, chapitre 18. Et on va commencer au verset 19. Ici, nous avons le roi Ézéchias. Et il est... La ville de Jérusalem est sous siège. On a Chanchérib qui s'en vient. Et là, on a son général, Ratchaké, qui dit quelque chose. Deux rois 18, au verset 19. Et regardez ce que Ratchaké dit. Il dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi de Syrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Ce ne sont que des paroles en l'air. Et en quoi donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris un soutien, pour soutien un roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. » Donc, on voit ici que Ratsaké provoque, lance des choses. Et maintenant, allons à 2 Rois 19, le chapitre d'après, et le verset 6. Parce que Ézéchias va faire quoi? Ézéchias va se tourner vers Dieu. Va se tourner vers Dieu et va demander à Dieu la délivrance. Et Isaïe va amener la parole, va amener la réponse que Dieu va donner. Regardez ce qui est écrit à 2 Rois 19, en commençant au verset 6. Et Isaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi donc parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi de Syrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je ferai tomber par l'épée dans son pays. » Encore une fois, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide les événements qui vont se passer. Et Sanchérib, si vous continuez à lire, fera exactement ça. Pourquoi? Parce que Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Ézéchias a mis sa confiance en Dieu. Non pas dans son armée, non pas dans ses systèmes de sécurité. Des choses que l'on doit regarder, qu'on doit connaître nous aussi. Allons voir maintenant dans le Nouveau Testament. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Ce sont des exemples absolument puissants que l'on trouve au travers de toute la Bible, mais que l'on doit rechercher des fois. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 22. 2 Corinthiens, chapitre 11, commençons verset 22. Ici, on parle, c'est Paul qui parle. Et il se décrit. Et regardez ce qu'il dit. 2 Corinthiens 11, et on va commencer au verset 22, on coupe dans la pensée un petit peu, mais il dit, « Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres du Christ? Je parle en termes extravagants, je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et pourtant, Paul a dit, « Réjouissez-vous en toutes choses. » Malgré toutes les choses qu'il a survécues, toutes les choses qu'il a passées au travers, on n'est même pas allé à un dixième de ce que Paul a fait. Je ne pense pas qu'il y en a aucun d'entre nous qui a été battu de verge. Il n'y a aucun d'entre nous qui a été lapidé. Il n'y a aucun d'entre nous présentement qui est allé en prison. Et Paul m'a passé au travers de toutes ces choses-là, mais sa confiance est restée dans Dieu. Continuons à descendre au verset 30. Regardez ce que Paul dit. « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Car Dieu, qui est le Père de Seigneur Jésus et qui bénit éternellement, sait que je ne mens pas. » Et reportez-vous maintenant au 12e chapitre de 2 Corinthiens. Et regardez qu'est-ce que Paul dit au verset 7. Encore l'exemple de Paul qui continue, il dit, « Pour que je ne suis pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il a mis en une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié sur le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il a dit, « Ma grâce te suffit. » Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Est-ce que Paul, à ce moment-là, a commencé à se plaindre? Pauvre petit moi, je suis pris, je souffre tellement. Tous les systèmes que j'ai vu mettre en place ne fonctionnent pas. Pas du tout, regardez ce qui est écrit. Il dit, « Je me glorifierai bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul mettait sa confiance où? Paul mettait sa confiance en Dieu. Paul mettait sa confiance en l'Éternel. Et c'est pourquoi il est capable de dire, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et nous, à la fête, nous devons faire exactement la même chose. Une erreur s'est faite, on a perdu notre chambre, l'eau chaude ne fonctionne pas, la tente coule demain, puis on a de l'eau sur notre tête la journée. Mettez un sourire sur votre figure, puis continuez. Il n'y a rien là. On est ici pour apprendre. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. La solution, il va la fournir dans le temps où on a besoin de la recevoir. Pas avant, pas après. Dieu est toujours à l'heure. Mais pour faire ça, on doit lui obéir, on doit suivre sa voie. Et c'est lui qui sera le niveau de protection. Regardez les promesses qu'il nous donne. Tournez à Psaume 91. Psaume 91. Regardez les promesses extraordinaires. Vous avez probablement déjà vu ces promesses-là, mais on va les revoir aujourd'hui. Psaume 91. Si l'on fait notre part, si on met vraiment notre confiance en Dieu, ces promesses-là qui sont écrites dans Psaume 91 vont se réaliser. Il n'y a pas de « si » dans le texte ici. Dieu a dit « Je vais faire ça si tu fais ta part. » Si vous faites votre part. Regardez ce qui est écrit au verset 1. On va commencer au verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Êtes-vous capable de dire ça à Dieu dans vos prières? Êtes-vous capable de dire ça à Dieu à tous les jours? Où vous êtes pris dans vos propres efforts, dans vos propres systèmes de sécurité. Verset 3. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseur, de la peste et de ses ravages, qui te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Allez maintenant au verset 6. « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein jour, en plein midi, que 1 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. » Repensez à l'exemple de l'ouragan aux Philippines, du typhon aux Philippines, où ce petit groupe de membres à Tobaclan est allé se réfugier au deuxième étage de leur maison, alors que toute la ville disait, ou que les personnes des autorités disaient « Allez au refuge, pas loin ». Eux, ils ont resté dans leur maison, ils ont mis leur confiance en Dieu. Ils ont chanté des cantiques avec un voisin. Et le voisin a dû trouver ça drôle toute la nuit. Mais quand ils sont sortis le lendemain matin, leur maison est encore debout et tous les autres étaient partis. Où allez-vous mettre votre confiance? Ce sont des exemples absolument extraordinaires. Verset 8. Que de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Est-ce que vous faites du Très-Haut votre retraite? Ou est-ce que vous dépendez dans Dieu, dans les hommes? Je trouve toujours ça fascinant cette semaine ou dans les semaines passées. Il y a des mots des fois que les êtres humains utilisent. Présentement, avec l'épidémie de Ebola, il y a présentement un cas à Dallas. La personne est morte. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le directeur de la CDC, l'Organisation de la santé, là, qui s'occupe aux États-Unis, a dit « Nous allons être capables de contenir l'infection. Nous allons l'arrêter. » Il y a présentement un autre cas. Et ils ne savent pas comment elle l'a attrapé, la petite madame. Et ils sont en train de perdre le contrôle parce qu'ils sont en train de suivre plusieurs dizaines de personnes. Même chose quand le Titanic a fait son premier voyage. Personne ne sera capable de couler le bateau. Faites attention aux personnes et rien. C'est Dieu qui décide. Et si la crise du Ebola décide de sortir, ce n'est pas l'être humain qui va l'arrêter. Si on est rendu au stade où ce que l'Ebola doit prendre là-dessus, rien ne va l'arrêter. Et là, vous allez devoir mettre votre confiance, vous allez devoir faire un choix. Et le choix, j'espère que vous allez le prendre du bon côté de la clôture. Dieu est en train de faire la ligne dans le sable. De plus en plus, on voit la ligne se faire tracer. De quel côté de la ligne allez-vous être? Allez-vous suivre Dieu de toute votre heure, de tout votre cœur, de toute votre âme, de faire ce qu'il vous dit de faire? Ou on va décider de faire les choses à notre façon? Et vous allez être pris de l'autre bord de la ligne. Ce n'est pas compliqué. Luc 21 parle du fait que l'on doit être « worthy » en anglais. Priez pour que vous soyez digne d'échapper. Cherchez le mot français, je l'ai eu. Digne, c'est bon. Que vous soyez digne d'échapper aux choses qui s'en viennent. Pour être digne, il faut faire les choses selon ce que Dieu veut, pas selon ce que l'on veut. Donc ça, c'était le deuxième point. Mettre votre confiance en Dieu. Les systèmes de sécurité que l'on a vus ne seront pas capables de tenir absolument rien. Troisième point. L'espoir en l'humanité, une leçon à apprendre. Et notez, j'ai bien dit l'espoir en l'humanité et non pas l'espoir de l'humanité. C'est très différent. Il y a plusieurs années, lorsque nous avons été en France, nous avons eu le privilège d'aller visiter le musée de la Croix-Rouge à Genève. Et notre guide à ce moment-là, durant la visite, a dit une chose qui était absolument surprenante. Et même lorsque nous faisions la visite, lorsque cette guide-là a fait le commentaire, plusieurs échanges d'œil, on s'est regardé à plusieurs endroits dans le groupe. Parce que cette dame-là nous avait dit, « Nous espérons que l'humanité apportera la paix. » Nous espérons que l'humanité apportera la paix. Et c'est l'espoir que l'humanité a en l'humanité. Ils espèrent que l'humanité va réussir à apporter la paix. Mais à travers toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des espoirs, il y a toujours eu des rêves d'apporter la paix. Ça n'a jamais fonctionné. Reportez-vous à Ésaïe 59. Ésaïe 59, je crois qu'on n'est pas allé à celui-là. Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 7. Parce que c'est le monde dans lequel nous sommes qui est décrit ici. Ésaïe 59, verset 7. Regardez ce qu'il est écrit. Il dit, « Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Leur ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Parce qu'ils ont rejeté l'être qui était capable de leur montrer. L'homme ne veut pas écouter, l'homme ne veut pas connaître. Elle ne veut pas faire les choses à la manière de Dieu, elle veut faire les choses à sa manière. Vous pouvez regarder l'exemple d'Israël. Chaque fois qu'ils faisaient les choses à leur manière, ça n'allait pas bien. Hein? À chaque fois qu'ils décidaient de s'éloigner de Dieu, ça n'allait pas bien. Hein? Et c'est des exemples que l'on doit prendre en note. Parce que regardez ce qui est écrit à Ésaïe 59, au verset 1. Il dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Pas le contraire. La faute, c'est nous qui l'a. La faute, c'est nous qui la faisons. C'est notre faute. Nous devons réaliser que Dieu est en charge et non pas le contraire. Et ça, c'est dur à accepter. Parce qu'on pense qu'on est des êtres humains, qu'on est mature, qu'on est fort. Pourquoi il faudrait que j'écoute quelqu'un que je n'ai jamais vu? Pourquoi il faudrait que j'écoute ce qui est écrit dans ce livre-là? Et pourtant, c'est là qu'est la vérité. Et c'est là qu'on doit apprendre. Et c'est là qu'est l'espoir de l'humanité. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Allons voir ce qui est écrit là. Reportez-vous à Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Et au verset 17. Deutéronome chapitre 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Exactement ce que les gouvernements d'aujourd'hui pensent. Vous rappelez-vous, à l'abri antinucléaire, hier, il y avait la Banque du Canada. Si jamais il y avait une attaque nucléaire, tous les lingots de la Banque du Canada étaient pour être déplacés dans le coffre-fort qu'il y avait dans le bunker. Ils voulaient protéger leur richesse, leur or. Et c'est exactement ce qui est écrit. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et ma puissance m'ont acquis ces richesses, verset 17. Et regardez ce qui est écrit au verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Nous ne devons jamais oublier que c'est Dieu qui mène. Que c'est Dieu qui juge. Et verset 19, « Parce que si on oublie l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, qu'est-ce que le monde fait aujourd'hui? Et si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui, vous périrez. » Est-ce que ça peut être plus clair? C'est une question de temps. L'humanité va apprendre sa leçon. Allez voir Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Une leçon a été enseignée cette journée-là à Belshazzar. Daniel chapitre 5. Daniel, chapitre 5. Vous connaissez l'histoire, c'est la main qui a écrit sur le mur. Daniel, chapitre 5. Et nous allons commencer au verset 17. Regardez ce qui est écrit. « Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Mais je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai son explication. Au roi, le Dieu suprême qui avait donné à Nebuchadnezzar ton père, l'empereur, l'empire, la gloire, la grandeur et la magnificence, et à cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples et les nations, les hommes de toute langue, étaient dans la crainte et dans le tremblement devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal. » Nebuchadnezzar avait appris la leçon. Et il fut chassé du milieu des hommes, des enfants des hommes, et son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. Et on lui donna comme à lui, comme au bœuf, de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur les hommes, et ce qu'il donne, à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, puisque toutes ces choses, quoi que tu saches, toutes ces choses. Tu t'es élevé contre les seigneurs des cieux, et les vases de sa maison, tu les as apportés devant toi, et vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Et tu as loué tes dieux d'argent, d'or et d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié Dieu. Tu as oublié la leçon que ton père avait apprise. Tu as oublié la leçon que Israël a apprise. Et voici donc, verset 25, au verset 24, continuons-là, c'est marqué, « C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Et voici donc l'écriture qui a été tracée, comptée, comptée, pesée et divisée. Et voici son explication. Comptée, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. » Belshazzar, as-tu un choix? Il n'y avait pas de choix. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et cette même nuit-là, descendez au verset 30, et cette même nuit-là, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. La fin de son règne, parce qu'il n'avait pas appris la leçon. L'espoir à l'humanité. L'espoir de l'humanité est rempli de cet oubli. Regardez en arrière, lorsque Barack Obama a fait son discours en 2008. Nous pouvons le faire. Yes, we can. On va transformer les États-Unis. Le rêve est encore vivant. Vraiment? Pensez-vous que les États-Unis vont vraiment rester debout même longtemps quand Dieu va décider que non? Le pontife, il y a quelques années, a dit « L'humanité apportera la paix quand le royaume est présent dans tous vos cœurs. » Le royaume est déjà arrivé. On va être capable d'amener la paix. Vous ne serez pas capable d'amener la paix. La Ligue des Nations, avant la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU présentement, Hitler, Napoléon, ont tous voulu apporter la paix. Même les Romains, dans le temps de Christ, voulaient amener la paix. Ils avaient la Pax Romana. Mais ça n'a pas marché. Ce n'était pas la bonne chose. Les choses dans le futur iront bien pour un certain nombre de ceux qui sont partis de la bête. Vous pourrez lire, je n'ai pas le temps de m'y reporter, mais Daniel 9, 27, il va y avoir une solide alliance qui va être faite. Et ensuite, vous allez voir dans Apocalypse 18, regardez la richesse que la bête va avoir. Et que ceux qui vont marchander, ceux qui vont profiter de cet empire-là, ils vont être riches. Mais ce sera la dernière richesse de l'humanité. Ce sera le dernier royaume. Apocalypse 13. Allons voir Apocalypse 13, verset 17, verset 16. Apocalypse 13, verset 16. Apocalypse 13, verset 16 et 17. Ça, ce serait l'autre côté de la médaille. Ceux qui décideront de ne pas suivre, qui vont décider de se tenir debout, qui vont mettre leur confiance ailleurs, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de meilleur qui va venir après. Mais verset 16 de Apocalypse 13. « Et elle fit le tout, de tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de ce nom. » Donc, il va y avoir un temps où l'on va être mis à part. Et ceux qui ne voudront pas participer à ce père gouvernement-là ne pourront ni vendre ni acheter. Ça ira pas bien pour eux autres. Et nous verrons au cours des prochaines années que l'Europe va prendre le contrôle de plus en plus. L'Allemagne est en train de prendre position. Les choses sont en train d'être établies. Ils vont croire en l'humanité. Et ils vont dire un jour « paix et paix ». À un point tel même où le faux prophète va pouvoir s'installer à Jérusalem, ils vont croire que le royaume est établi. C'est fort pareil. C'est là qu'il y a la puissance de cet être-là qui est l'usurpateur, le faux prophète, la bête. Les gens vont croire que le royaume est là. Mais ce royaume-là va tomber. Et c'est le gouvernement que l'on parle ici. Allez voir Ésaïe 30. Ésaïe, chapitre 30. On est averti que ces choses-là vont prendre fin rapidement et avec fracas. Ésaïe chapitre 30, verset 1, verset 12. Ésaïe chapitre 30, verset 12. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez mes paroles, cette parole, et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, vous vous confiez en l'homme, en d'autres mots. Vous avez confiance en l'humanité. Et que vous vous prenez et que vous les prenez pour appui. Verset 13. Ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrivera ou arrive tout à coup, en un instant, et il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau, pour prendre du feu au foyer et pour puiser de l'eau à la citerne. Et car c'est ainsi que l'Éternel, qu'a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Leur destruction sera brusque et ça va faire mal. Mais c'est le seul moyen qu'ils vont apprendre la leçon. Et cette phrase que les guides du musée de la Croix-Rouge nous a donnée, nous espérons que l'humanité apportera la paix, est une expérience qui est absolument fausse. Cet espoir est vain. Elle n'arrivera pas. C'est un espoir sans issue. Et être capable de réaliser ça, ça fait mal. Vous savez, lorsque vous mettez votre espoir dans quelque chose et vous espérez tellement que c'est la bonne solution, puis que ce ne l'est pas, le découragement, tout tombe. Hein? Le cœur tombe, il n'y a plus d'espoir. C'était votre dernier espoir, c'était là, là. Puis là, c'est plus là. Il n'y aura plus d'espoir. Et présentement, comme on a entendu dans les sermons précédemment, il y a des gens qui sont sans espoir. Il y a des gens présentement en Haïti, il y a des reportages qui ont été donnés là-dessus. Les femmes sont là, prises dans la misère, ils disent, on n'a plus d'espoir. On survit au jour le jour, mais on n'a pas d'espoir. Et lorsque ces choses vont arriver, tous ces gouvernements, tout ce que ces gens-là vont représenter, tout ce que les gens d'aujourd'hui vivent et pensent qu'ils sont heureux, ça va tout tomber. Et ce n'est pas un espoir en l'humanité qu'il faut avoir. C'est un espoir en Christ, en Dieu. Et si nous nous appliquons ces lois, si nous mettons en pratique ce que nous devons faire aujourd'hui, notre confiance va être au bon endroit. Nous allons pouvoir utiliser cette puissance-là. Nous allons pouvoir dépendre sur cette puissance-là. Nous allons pouvoir être dignes d'échapper aux choses qui s'en viennent parce qu'on ne veut pas rester en arrière. En tout cas, moi, je ne veux pas rester en arrière. Si vous voulez rester en arrière, ce sera votre choix. Mais ça va être le choix aussi de Dieu pour savoir si vous êtes dignes de sortir. Et c'est là qu'est l'espoir. C'est là qu'est le travail que nous devons faire. Donc, tous ces édifices-là que nous avons vus, tous ces systèmes de sécurité, toutes ces différentes choses que l'on a vues, vont toutes être remplacées. Et finalement, les gens comprendront la vérité. Et c'est l'espoir de cette fête aujourd'hui. Et la fête qui va arriver demain, qui représente le dernier grand jour. Parce que, frères et sœurs, voyez-vous, l'espoir de l'humanité sera en Christ, doit venir en Christ. Et notre espoir en nous est déjà là. Et nous devons avoir Christ comme roc, comme roche, rocher, comme forteresse. Ne jamais laisser aller. Ne jamais laisser aller. J'entendais la traduction là-bas, ça va. Ne jamais laisser aller Dieu, parce que l'espoir est en lui.